Les singes les nœuds. Fumé.
Donc on voit une main de singe, enfin c'est une partie, je sais pas si c'est la partie antérieure. Ouais, on devine bien. Ah oui, on voit la queue en fait, un peu grillée, un peu fumée. Donc voilà les singes qu'on a vus en liberté à Tarangué, ici on les retrouve effectivement fumés sur le marché.
Un dromadaire sur l'épaule, Cyril Desprats et Monsieur T.
Bonjour à tous, merci de prendre avec nous la route de l'Amazonie péruvienne avec nos invités, avec les reportages de Stéphane Herzog.
Voilà, il est bientôt 19h, nous sommes sur la route qui va entre Tarapoto et Yurimaguas et on est en présence de Carlos, le mari de Hélène Colong. Quelle importance elle a cette route dans la région hein?
Bon, et c'était l'entrée en fait entre la haute forêt, la haute Amazonie et la basse Amazonie. C'est la unique entrée. Donc c'est une route très importante pour tous la nourriture de la basse forêt. En fait, cette route, c'est au bout d'une route qui vient depuis Lima, c'est-à-dire de la capitale du Pérou. C'est très important pour les gens qui habitent la basse forêt. Tu vois, maintenant on ne voit pas, mais chaque camion qui passe par ici, il est plein de bois de la forêt, très, très précis à Lima, très cher. Donc c'est principalement ça. Après, il y a aussi quelques sorties de combustible qui viennent des raffineries dans l'Amazonie. Il vient aussi pour ici. Mais de l'autre côté, cette arrive de Lima vers Yurimaguas ou vers Iquitos, c'est surtout la nourriture, c'est végétal, c'est de la bière aussi. C'est très important ici. Et des choses comme électrique, électrodomestique et tout ça.
Voilà. Alors en fait, quand on arrive à Yurimaguas, on peut dire que là, la route s'arrête.
Oui, tout à fait. C'est le dernier bout de toute la route qui vient de Lima. En fait, ce sont au moins 2000 km en fait, de route hein, depuis Lima ici. C'est le dernier bout d'une longue traversée pour la route.
Voilà, on a encore combien de routes là à peu près?
Une heure
de route.
On parcourt aujourd'hui le pays des Kokama et des Awaruna qui sont comme les Chouars, les Achouars ou les Chiwars, les noms des peuples amérindiens qui vivent depuis des siècles dans cette région de la forêt amazonienne entre l'Équateur et le Pérou. Des Indiens appelés aussi Jivaros par les envahisseurs espagnols au XVIe siècle, un terme péjoratif qui veut dire sauvage, qui veut dire barbare. Des envahisseurs impressionnés sans doute par la coutume qui consistait à couper et à réduire les têtes des ennemis tués ou capturés pendant les combats. Peuple guerrier qui a réussi à maintenir durant des siècles conquérants et missionnaires hors de leur forêt, les Jivaros sont aujourd'hui connus pour leur médecine traditionnelle. L'industrie pharmaceutique est d'ailleurs en train de mettre la main sur leur savoir-faire et leurs recettes. Des touristes font des milliers de kilomètres pour réaliser des expériences mystiques avec des plantes hallucinogènes. Stéphane Herzog a rencontré une Indienne de l'Amazonie péruvienne. Elle s'appelle Albertine, un nom donné par les Blancs. Elle nous parlera tout à l'heure de son enfance, de la forêt, de sa rencontre avec les Blancs et les Métis, de son combat aussi pour sauver la forêt. José Marine González, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un anthropologue péruvien, vous vivez en Suisse, vous êtes un très grand connaisseur des Indiens d'Amazonie. Vous connaissez cette région de Tarapoto, de Yurimaguas. Votre mère est originaire de cette région. La route, elle ressemble à quoi ?
La route, c'est le terminus de toute une route, comme bien disait la personne qui vient de décéder, des 2000 km d'extension qui part depuis Lima. Et la petite histoire, c'est que dans les années 60, le gouvernement confronté à des grands conflits sur la propriété de la terre dans la région de la côte et de la région andine a trouvé la bonne solution d'envoyer des colons d'une manière anarchique occuper, envahir et s'installer dans cette région. Et c'est à cet effet qu'on a construit la route appelée marginale, que c'était la route de pénétration vers la forêt amazonienne, où théoriquement on devait trouver toutes les solutions aux problèmes socio-économiques de la terre dans la région andine et la côte.
Et qui a posé des problèmes, j'imagine, de cohabitation avec les populations sur place, avec les Indiens. Est-ce qu'on les voit le long de la route, les Indiens? Est-ce qu'il en reste? Est-ce qu'ils sont de la forêt? Est-ce qu'ils sont dans les villes?
Toute cette population a été carrément chassée par cette colonisation sauvage, une sorte de colonialisme interne qui a été réalisé contre tous ces peuples indigènes qui sont en fait le propriétaire de tous ces territoires. On les voit peu dans la mesure que tout a été soumis à un processus de métissage culturel très très grand et que ceux qui sont dans une position de faiblesse essayent de se mimétiser dans la population locale aussi. Et difficilement on peut arriver à certaines communautés indigènes qui sont encore en train de fonctionner comme on imagine au niveau traditionnel.
Vous restez avec nous, on va parler avec vous parce que vous les connaissez, ces Indiens, vous les avez rencontrés. Vous êtes vous-même, je l'ai dit, d'origine assez lointaine, mais de par votre maman, d'Indiens de la forêt amazonienne péruvienne. Vous nous parlerez de ces Indiens dans une trentaine de minutes. Mais là, vous l'avez entendu, on a quitté la route, on est au bout de la route. On arrive donc à Yurimawas, on a rejoint Stéphane Herzog et Carlos Palomino, son guide. Yurimawas, c'est là notamment où finissent toutes sortes d'animaux capturés ou tués dans la forêt.
De Yurimawas avec Carlos, et c'est un endroit où il y a souvent évidemment de la vente d'animaux de la forêt, et en entrant on a vu c'était des tortues.
Oui, c'est un marché que la gens elle vient à vendre ici, et que les animaux qui arrivent de la forêt, comme vous voulez vous voir, il y a beaucoup des animaux en vente.
On a vu qu'il y avait des pots avant.
Oui, c'est la peau des bois, des otorongos, c'est-à-dire des jaguars américains. Oui, il y a beaucoup. Hein.
Okay. Et alors, vous venez des fois, vous venez avec Icama Peru ici, pour en fait faire des confiscations. Et comment ça s'est passé, par exemple, la dernière fois que vous êtes venu ici, hein?
La dernière fois, on a vu deux lénés. On a parti à INRENA, qui est l'Institut de ressources naturelles, pour faire la confiscation. Le chef d'INRENA de Yurimawas a donné l'autorisation de venir avec deux techniques. Après, on a parti à la police, parce que c'est important de faire ça avec la police. La police a donné aussi deux personnes, deux agents. Et on est venu ici pour faire la confiscation. Dans le moment, personne ne sait pas les propriétaires des singes. C'est-à-dire, ils savent que ce qu'il fait, c'est mauvais, c'est illégal. Donc il a laissé les singes. On a amené les singes à INRENA, on a donné l'acte de custodia qui s'appelle comme ça. Et après, maintenant, ils sont déjà en récupération à Icama Peru.
Vous avez sauvé ces singes, en fait. Donc ils étaient en vente pour la distraction des gens, hein?
Si, ces singes, c'est pour les vendre pour les enfants. Mais en fait, le pire, c'est que en fait, c'est quand les chasseurs ils tirent sur les groupes, c'est justement parce que les mères qui les portent, ils restent très peu mobiles. Donc c'est facile de les voir. Et une des singes que nous avons pris, il a deux perdigons,
tu sais, du plomb.
Oui, dans le corps. Hein. C'est-à-dire qu'il a été touché aussi. Okay. Et maintenant, il faut faire une opération pour les enlever.
Alors, quand on se promène ici, toi, il y a un risque que tu sois reconnu et c'est un problème.
Oui, c'est un problème parce que... Bon, maintenant, je suis face à l'endroit qu'on a fait la confiscation Et madame ne m'a rien dit. Hein. Pour le moment, je pense que ça va passer. Mais oui, c'est toujours un danger d'amener la police au marché comme partout, parce que les gens te voient comme un ennemi. On a fait aussi hein, beaucoup de sensibilisation. On a fait ici dans les murs du marché, on a mis beaucoup de cartels sur l'interdiction de tous les singes en danger d'extinction. Donc on a fait un travail de sensibilisation. Et peut-être c'est bon parce que les gens ils ne te voient pas comme une personne qui les fait mauvais. Ils te regardent comme une autorité finalement.
Voilà, on arrive vers un nez de la viande. Donc, il y a du tapir.
Oui, il y a des tapirs, il y a des agoutis et il y a les sangliers.
Sauvages donc.
Oui, tout ça sont sauvages. Hein. Hay monos? Guapo? Guapo?
Guapo, también hay, pero es muy difícil.
Ah. Ici, on trouve des montagnes de singes fumés.
Ici, il y a motelo, mahasa, añuje, sahino, wangana, aves, paujil, pukakunga, de todo hay.
Il dit qu'ici, on vend de tous les viandes de brousse, hein, des oiseaux, tout qu'il a mentionné dans la liste, c'est en danger d'extinction.
Je peux lui demander si c'est autorisé de vendre cette plante.
Si, comment est-ce autorisé ou non autorisé? Elle veut savoir ça.
Autorisé, con licence. Con licence.
Il dit que si c'est autorisé, elle travaille avec licence.
Oui. Et voilà, on arrive devant un petit singe qui est attaché sur une cage. Il est minuscule, il fait peut-être 10 cm de long.
Oui, c'est un petit singe. C'est, oui, c'est un tamarin. C'est peut-être les Saguinus fusiculis. Bon, le vent comme ça, il l'attache toujours. Et si dans les prochains jours, il n'est pas vendu, il meurt. Parce qu'on ne donne pas beaucoup à manger. Hein.
Voilà encore un grand étale de viande de chasse.
Quel autre animal tu as?
Tengo sahino, tengo venado y tengo mahas.
Sanglier, de chevreuil y de agouti aussi. ¿Mono no tiene?
Sí.
¿Qué mono es?
Chorito.
Ici, les singes laineux, fumés.
Donc on voit une main de singe, enfin, c'est une partie, je ne sais pas si c'est la partie antérieure. Ouais, on devine bien. Ah oui, on voit la queue, en fait, un peu grillée, un peu fumée. Donc voilà les singes qu'on a vus en liberté à Tarangué, ici on les retrouve effectivement fumés sur le marché. Et alors tu peux lui demander comment elle s'approvisionne, c'est qui fait la chasse comme ça?
Il dit comment l'ont cassé?
Non, si je les compre, comment les casseront pour eux? Il dit qu'ils les cassent selon les cassent dans les arbres. Non, les agriculteurs traient pour que se comprent leurs nécessités aussi d'eux. A lo menos por la zona, la ribera de abajo, ellos traen cazando para que puedan llevar lo que les, el agua les, no les deja tener la yuca, el plátano. Y ellos traen para que les lleven la farina para que coman pues ellos.
Dice que los paysans, pendant la época de la pluie, todos los terrenos restan inundados. Donc, ils ne vendent pas son produit. Donc, ils chassent pour l'amener ici. Pour le vendre et après il achète pour la nourriture de la maison.
Combien coûte le kilo de singe laineux?
Quanto est le kilo de mono?
8 soles.
8 soles.
8 soles.
Oui, c'est-à-dire 2 euros.
2 euros, ouais. On voit un autre animal.
Comment se llama?
Panchito, Pancho.
No, pero ¿qué especie es?
¿Cómo dijo?
Musmuki, creo. Musmuki, ¿no?
Sí, se puede como
Aotus. Aotus, c'est pas les Mykonak, c'est Aotus, peut-être. No le connais pas très bien ça, mais c'est un Aotus, c'est-à-dire des singes nocturnes. C'est entre les très peu d'espèces de singes nocturnes dans le monde. C'est un danger d'extinction aussi.
Une des rares espèces de singes nocturnes qui existe dans le monde.
Oui, oui.
Ah, alors là, c'est un tout petit. Hein.
Ah oui, dans le cas, oui, il a 3 ou 4 mois, peut-être moins.
Ah, l'ai comprado en el mercado.
Il l'a acheté dans le marché, hein. Ah,
combien ça coûte?
Quanto ti ha costato?
20 soles.
20 soles.
Pourquoi il l'a acheté?
Il te pregunta por qué l'has comprado, qué es lo que te gusta del monito.
Ah, lo llevo para una mascotita para mi hija.
C'est une mascotte pour lui. Il s'amuse avec ça.
Mais en fait, c'est autorisé d'avoir des singes comme ça, ici?
Et te pregunta si t'es autorisé à tenerlo, así?
Non, non, sinon que comme je suis beaucoup viejo acá, il le llevo, pues. Sí.
Ah, tu la llevas, à dónde la estás llevando? Ah, il l'amène à Chiclayo. Il vient très peu de fois ici, et maintenant il l'achète pour l'amener à la côte au Pérou. C'est-à-dire à un endroit désertique.
D'accord. Il va survivre là-bas, ce singe?
Je pense que pas. Hein. Je pense que pas.
Bon. Donc là, typiquement, si vous étiez avec Ikema Pérou, vous pourriez le confisquer?
Pas directement, il faut amener à INRENA et à la police aussi.
Dans le marché de Yurimaguas avec vous, Stéphane Herzog, on a l'impression qu'il y a une impunité assez importante quand même pour les vendeurs de viande de singe.
Oui, et ce qui est bizarre, c'est quand on pose la question aux gens, ils sentent bien, est-ce que vous avez le droit d'avoir ces singes?
C'est un peu gêné quand même.
Ouais, ils sont quand même un petit peu gênés. Donc il y a quand même la conscience que c'est pas tout à fait normal d'avoir ces animaux. En même temps, voilà, les gens considèrent que quand on leur amène cette viande de brousse, ben pour eux, c'est une bonne affaire pour la vendre. Et puis, bon, ils vont pas se torturer sur cette question. Il y a peut-être d'autres problèmes vitaux, économiques. Le Pérou, c'est un pays extrêmement pauvre. Donc, les gens pensent à la survie. Et effectivement, les questions de développement durable et de protection de la forêt arrivent peut-être en second plan.
Vous l'avez goûté, vous, cette viande de singe?
Alors non, pas du tout. Puisqu'on avait passé, en fait, plusieurs jours auprès de ces singes qui sont venus dans nos bras, qu'on a pu toucher, qu'on a pu voir, ce qui était quand même quelque chose d'extrêmement émouvant. Et on a vu ces singes sur fumer, hein, comme disait Carlos. Et Carlos disait, ben voilà, vous voyez, c'est comme voir un ami qui a été fumé. Donc pour eux et donc pour nous, par conséquent, c'est un événement triste de voir ça sur
les étals. C'est un peu choquant, parce qu'on imagine un singe mort, ça ressemble quand même un peu à un être humain. C'était quelque chose de choquant.
Ouais, c'est choquant parce qu'on voit les mains notamment, on voit les membres, on voit les doigts. Et effectivement, ben, un singe, ça ressemble à un homme. Donc il y a cette proximité dans la physionomie et c'est choquant.
Alors vous nous proposez maintenant une rencontre avec Albertine. C'est qui Albertine?
Alors Albertine, c'est une indienne du grand groupe d'indiens Jivaro. Et donc c'est une indienne à Wahun qui est un sous-groupe. C'est une femme qui est en même temps une militante pour l'environnement, qui est aussi une commerçante. D'ailleurs, elle dit qu'elle a aussi coupé des arbres pour planter du maïs, du café. Et c'est la grande amie d'Hélène Colong, sa confidente, son aide, et qui lui montre comment on peut notamment replanter des espèces tropicales rares pour nourrir les animaux, nourrir les oiseaux. Donc voilà, c'est une femme exceptionnelle avec une carrure morale particulière.
Albertine, c'est pas un nom indien pourtant?
Non, alors son nom de famille, si j'ai bien compris, c'est Nanshian Twits. Et Albertine, c'est bien évidemment un nom qui lui a été donné et imposé par, j'allais dire les conquistadors, c'est un peu plus tard, mais par, voilà, par les métis, par la société occidentale implantée au Pérou.
Alors vous l'avez rencontrée, elle vous a parlé de son enfance dans la forêt.
Nosotros, historia antigua, ¿no? Mi padre, nos preguntábamos, recién nosotros sabemos que somos peruanos, ¿no? Porque ese tiempo no sabíamos que son Perú, de otro sitio, ¿no? Nosotros sentíamos de un solo mundo, ¿no? Pero ya entrando en habla castellano, escuchamos de los diferentes mundos, ¿no? Que Abaruna, Perú, todo eso, ¿no? Pero lo que mi papá me cuenta de historia es que nosotros hemos venido de lejos, como mi padre dice, lejos.
Avant que nous rencontrions les autres, nous pensions que le monde, mon père, mes parents pensaient que le monde était une seule chose. Et c'est très tard que nous avons appris qu'il y avait le Pérou, qu'il y avait des gens différents. Nous pensions que nous étions seuls dans la forêt. Et nous avons appris que le monde était divisé entre différents pays, différentes personnes. Et donc, nous, nous venons de loin, nous venons du fleuve Marañón, et nous sommes venus dans l'Alto Mayo. Et je me souviens que mon arrière-grand-père est venu en suivant les traces de l'ours pour trouver les terres les plus fertiles.
Creo que en Abajón, a nosotros que nos hace diferentes, que nosotros hemos sido natural de la selva. De la selva hemos vivido diferente que hoy que vivimos, ¿no?
Ce qui nous différencie des autres, c'est que nous, nous sommes des gens de la forêt, nous sommes des gens qui ont toujours vécu de la forêt. Et à l'heure actuelle, nous sommes ceux qui continuent à défendre la forêt. Parce que nous voyons que la forêt est parfumée, les bois parfumés sont en train de disparaître.
Les bosques más amados que fue de nosotros antes. Les bosques perfumados, estamos perdiendo eso, ¿no? Eso es lo que un poco me extraña a mí. Nos extraña, ¿no? Y hasta mi papá lo extraña eso.
Est-ce que vous pouvez me raconter le monde de votre enfance?
Bueno, el mundo de mi infancia... Fue aquel tiempo para mí he sentido un mundo muy natural, muy hermoso, muy bella por su
la
belleza.
La primera cosa es que c'était un mundo de beauté. Il y avait de la beauté partout. Il y avait des tapirs, il y avait des singes, il y avait des perroquets, il y avait des poissons, il y avait de tout. Et c'était un monde enchanté. Et jusqu'à maintenant, je ne peux pas me consoler de l'avoir perdu.
Quels ont été vos premiers contacts avec le monde blanc, la modernité, le monde occidental?
Este, bueno, en aquel tiempo cuando conocí, cuando tenía 6 años apenas, de mi niñez, este, mi papá me dijo que yo tenía que estudiar, aprender a escribir. Entonces, para mí era una cosa muy nueva, ¿no?
Mon père m'a dit, quand j'avais 6 ans à peine, mon père m'a dit, maintenant c'est très important pour toi que tu apprennes à lire, que tu apprennes à écrire pour te défendre. Et à ce moment-là, je suis partie à Rioja, chez des métis qui devaient m'éduquer. Et là, je suis partie d'un monde dans lequel c'était des rires, c'était de la joie, c'était des chansons. Je suis passée dans un monde qui, pour moi, à l'âge que j'avais, représentait la haine, représentait le rejet. Et représenter véritablement tout ce que la haine peut signifier.
Mundo de odio, ¿no? Discrimination, de rechazo, de insulto. Eso es que me causó a mí, ¿no?
Mais alors, ce monde dont vous me parlez a l'air parfait comme ça, mais il devait quand même comporter des défauts, non?
Bueno, el defecto de donde que yo vivía, donde que yo crecí, mi cuna, había defectos que había dos hombres que tomaban dos mujeres.
Oui, c'est bien sûr qu'il y avait des défauts. Disons que l'essentiel, c'était que les femmes étaient très, très dominées par les hommes. Il y avait beaucoup d'hommes qui avaient deux femmes à la fois. Mais moi, j'étais un enfant. Donc, moi, ce que je voyais, c'était la beauté d'un côté et de l'autre, la haine et le rejet dont j'étais l'objet.
Alors, Albertine, quelles sont aujourd'hui vos activités, votre combat?
Bueno, ahora que... Que ya soy grande, ¿no? De mi pequeño que pensé y ahora he vuelto en la realidad, lo que es la verdad, ¿no? Cuando era yo niño pensaba que yo tenía que defender a las mujeres.
Depuis que je suis toute petite, j'ai vu beaucoup d'injustice envers les femmes. Et c'est à cet âge-là que tout de suite j'ai pensé que je voulais faire quelque chose pour les femmes à Warun. Je voyais beaucoup de femmes se suicider autour de moi. Et j'ai toujours travaillé donc, dans l'intérêt des femmes, de leur liberté. Et je vois avec plaisir que les choses sont en train de changer. Maintenant, il y a un autre combat qui est au moins aussi important, c'est celui contre la corruption.
Cette vie de acá de la tierra. Es tan duro, ¿no? Es tan duro. Pero hay que saberlo vivir, combinarlo, lo que es, ¿no? Adaptarlo ya a lo que viene, ¿no? Porque no se puede correr a dónde.
Autrefois, les Abajún, lorsqu'ils se trouvaient confrontés à des difficultés, à des problèmes, la forêt était immense. Donc, on pouvait partir, on s'échappait. C'est comme ça que nous sommes arrivés ici. Mais maintenant, nous ne pouvons plus partir nulle part. La forêt ne peut plus accueillir tous nos problèmes. Donc, maintenant, nous sommes face à nous-mêmes, nous sommes face à la nécessité de négocier, de dialoguer, de comprendre les choses. Et c'est comme ça, aussi en nous respectant nous-mêmes, que nous sommes parvenus à résister, à continuer à exister, à préserver notre langue.
Es que aprender a vivir con bueno o con los malos, ¿no? Porque creo que el mundo no existe ni malo ni tan bueno, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros aceptamos y nos paramos ahí. Para Bajún, la cosa es, la importante es de que debemos que unirnos todos y ponerse a pensar, ¿no? A pensar.
Maintenant, nous sommes confrontés à des problèmes nouveaux. Nous sommes confrontés à l'invasion de nos territoires par les colons et à la destruction de la forêt. Et ça, c'est très grave parce qu'ils sont en train de détruire les parties qui ont toujours été les plus sacrées pour nous. Par exemple, les sources qui se trouvent en hauteur et qui génèrent l'eau. Et ça, ça a toujours été des endroits qui, pour nous, ont signifié que c'est là que vivaient les êtres sages. Et donc, on savait que si on détruisait la forêt à cet endroit, voilà, et bien la rivière se sécherait. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc pour nous, à l'heure actuelle, les Awarun, nous savons qu'il y a deux voies qu'il faut absolument tenir. C'est la voie de l'union, nous devons être unis, et c'est la voie de la réflexion. Comment agir et que faire ensemble?
Donc les colons viennent sur vos terres, amènent des vaches, coupent la forêt, plantent du maïs, du café. Est-ce que vous comprenez quand même leur motivation?
Yo lo que estoy viendo es la gente han ambiciado mucho en dinero. Ya piensan que destruir
el bosque. Oui, ce qui se passe maintenant, c'est que c'est la convoitise, c'est l'avidité, c'est l'argent qui est au centre de tout et qui est en train de détruire toute la beauté qui nous entoure. Et ça, c'est la partie la plus dramatique. Ce qu'il faudrait, c'est que apprendre aux enfants la beauté et non pas l'avidité. Et c'est le contraire qui se passe.
Donc, vous me dites que vous êtes devenue commerçante, c'est-à-dire que vous faites aussi du mal à la forêt qui vous entoure.
Sí, yo también sé que yo he hecho daño. Pero no he hecho daño porque yo quise, sino por una necesidad.
Oui, bien sûr, que moi aussi j'ai fait du mal, j'en suis bien consciente, mais il faut voir comment les choses se sont passées. Les métis, lorsqu'ils sont arrivés, ils nous ont dit si vous ne cultivez pas la terre, parce que vous êtes des paresseux, donc vous ne cultivez pas la terre, eh bien on va vous les prendre, vos terres. Si vous ne cultivez pas le riz ou quelque chose, vos terres ne vous appartiendront plus. Donc nous avons fait tomber les arbres. Et maintenant, bien sûr, nous avons aussi détruit, mais ce n'était pas parce que nous le voulions, si ce n'est pas sous la pression des métis.
Est-ce que nous avons crecí, pertenecemos, somos parte, et depuis le principe, de raíz, nous ont enseñado que somos parte de la naturaleza.
Nous sommes nés ici, nous avons grandi, non seulement nous avons grandi dans la forêt, mais nous sommes partis de la forêt. Et on a toujours appris que c'était la même chose, il n'y avait pas de différence, on est parti de la nature. Pour les Awarun, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel ça. Et nous savons d'où nous venons, nous. Les métis, ce sont des gens qui souvent, ils ont grandi sans père, ils ont changé de terre, ils n'ont pas les racines que nous avons. Donc la terre, pour eux, c'est quelque chose qui n'a pas le même sens, c'est quelque chose qu'ils peuvent vendre. Pour nous, nous ne pouvons pas vendre.
Et à veces, no toman importancia de la tierra que está pasando, ¿no? Y no toman valor, y por eso creo que también la tierra lo vende fácilmente, ¿no? Trafican la tierra. Entonces, yo creo que ahí está. Calla, Vicaya, 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 no cuino maña, hasta no va, no cuino maña, hasta no va, tu, na eta, tu, vaya, tadai, no cuino maña, hasta no va, tu, vaya, tadai. Agaña, mina nunca vi, asa no va tu, vaya darai, con, vaya darai, con, vaya darai, vi callate, no bueno vaya, asa no va, yo me ochena, ya no va tu,
Albertine indienne Navarro, qu'est-ce qu'on entend là? C'est un chant sacré?
Oui, alors c'est un anen, et les anen sont des chants sacrés qui permettaient des chants incantatoires, par exemple pour empêcher les hommes d'aller à la guerre, puisqu'on sait qu'en Amazonie les gens n'arrêtaient pas de se mettre un petit peu sur la tête, de s'attaquer parmi. Et c'est aussi un chant en fait qui servait, il y a plusieurs déclinaisons du chant, mais qui servait à remercier la nature après une chasse, qui servait à honorer un arbre, puisque en fait l'univers végétal et la faune en Amazonie sont en espèce de continuité avec avec les êtres humains. Donc ça forme un tout et les chants permettent de célébrer cet univers-là.
Et c'est dans une ambiance assez terrible, on entend l'orage derrière, c'est très impressionnant.
Ouais, alors c'était juste incroyable parce que cette Albertine avait fait un grand voyage pour venir nous voir. C'est la nuit, on est autour d'une table. Il y a Tom Tirabosco, il y a Hélène Colong, il y a Carlos, il y a des Indiens qui travaillent avec Icamaperu qui sont là. Et il y a Albertine qui est d'une petite taille comme ça, mais qui est très calme, avec un regard très perçant, une voix douce mais persuasive. Et elle est en train de nous parler. Et à ce moment-là, il y a un orage fantastique qui se déclenche. Et alors, c'est une ambiance vraiment très particulière. Je me dis merde, le son va être foutu. Non.
Quelle impression est-ce qu'elle vous a faite, Albertine?
Alors, moi je l'ai reçue, on me l'a présentée un peu comme une femme dignitaire peut-être des Indiens. Alors il y a tout ce que j'y mets moi, parce que pour moi les Indiens de l'Amazonie, ça représente déjà énormément, donc je la charge déjà de mes propres fantasmes, on va dire. Et effectivement c'est une femme qui a une stature morale qui est forte, elle va nous parler pendant une heure sans discontinuer, en n'hésitant pas sur les mots, et en nous parlant de sa vie, de son univers, de la forêt, du futur, de son combat. Donc moi j'étais très impressionné par cette femme.
Balade, on pourrait appeler ça balade péruvienne, ça s'appelle Pérou Inca. On parle des Indiens péruviens jusqu'à 15h avec vous, José Marine González. On ne va pas parler des Incas, des Indiens des Andes, mais on va parler de ces Indiens amazoniens, de ces jivaros, comme on le dit, comme le disaient les conquistadors espagnols, qui est un terme négatif, comme les Awaruna, comme eux-mêmes s'appellent. Votre réaction peut-être tout d'abord à ce reportage de Stéphane Herzog et à ce portrait d'Albertine?
J'étais très touché par les témoignages d'Albertine. Ses réflexions sont très, très profondes et il ne s'arrête pas à la perspective locale. L'avidité, le dieu argent, le dieu économie, le profit à n'importe quel prix, la destruction de la nature, la destruction de la dimension humaine, de la vie. Et je crois que c'est un message global. C'est un message qui nous touche dans des moments où nous nous retrouvions sans projet de société viable et on doit vraiment reconstruire un système de valeurs pour apprendre à nous respecter à nous-mêmes et apprendre à respecter aux autres. Nous avons un grand défi pour assumer la dignité humaine et en même temps nous avons un énorme défi pour respecter la nature de laquelle nous faisons partie. Et Albertine nous ramène dans sa réflexion, dans le sens que tous ces peuples indigènes de cette forêt amazonienne péruvienne, du bassin amazonien sud-américain, ont la claire conviction que la nature, c'est un système vivant, que la nature, c'est un système intelligent, que la nature, c'est un système doté d'une spiritualité, et que la seule manière pour cohabiter avec les autres êtres vivants, c'est le respect, sauvegarder l'harmonie et entretenir la réciprocité.
Vous-même, vous êtes d'une famille indienne, ça fait plusieurs générations, parce qu'on le verra avec vous aussi, il y a eu beaucoup de métissage, mais votre maman était d'origine indienne. Quand vous entendez, par exemple, Albertine chanter, quand vous l'entendez parler de la nature, il y a des réminiscences aussi de choses que vous avez vous-même entendues.
Et en fait, nous sommes tous issus d'un profond métissage plutôt culturel. Plutôt culturel dans le sens qu'il n'y a pas de race. Biogénétiquement, il n'y a pas de race. Mais nous sommes tous issus d'un profond processus de métissage culturel. Et bien sûr, il y a des appels à la mémoire affective. Quand j'écoute Albertine, ma mère n'était pas tout à fait indienne, c'est une métisse, mais qui a été imprégnée de cette formidable culture, était imprégnée de cette spiritualité. Et la tonalité de ses chansons, c'est sa imprécation que les Sawahoum les donnent un nom et que des autres peuples de la forêt les donnent un autre, se réfère à toute cette histoire de réciprocité, de respect, de remerciement vers le monde autour. Et ça m'a rappelé des fois ma mère. Ma mère était quelqu'un
Elle chantait
de... Ma mère chantait. Chanter, se rappeler beaucoup de son enfance. C'était quelqu'un qui avait une tendresse extraordinaire, une finesse d'esprit, et à qui je remercie à chaque fois que je donne un pas.
Vous parlez du respect de la nature, vous parlez de cette lutte contre la convoitise, contre le dieu argent. C'est un discours qui passe très bien ici, aujourd'hui, en Europe, parce qu'on voit bien les limites de notre propre système. En quoi est-ce que ces valeurs-là étaient fondamentalement intégrées à la vie quotidienne de votre famille? En quoi est-ce qu'elles étaient, elles étaient concrètes? En quoi ce n'était pas un discours général tel qu'on peut l'entendre aujourd'hui de la part de toutes sortes de milieux ici, qui ne sont pas forcément issus des milieux indiens d'Amazonie?
Bon, il y avait deux possibilités. Nous sommes tous issus d'un sans contexte où il y avait des valeurs locales, des cultures traditionnelles, et d'un autre côté, l'imposition d'un modèle de société basé sur l'irrationalité, basé sur le profit. Et nous avons été éduqués, nous avons été colonisés dans notre imaginaire, dans l'idée que le profit, le fait de posséder, d'avoir, de pouvoir acheter, c'était un peu le but de notre existence.
Ça, vous avez des souvenirs de cette colonisation, de moments où tout d'un coup, vous vous êtes rendu compte que voilà, le profit devenait une nouvelle valeur qui n'était pas une valeur traditionnelle?
Bon, à partir de l'école, du moment que l'école ne tient pas compte de la diversité culturelle et linguistique, du moment que l'école est utilisée presque comme un insecticide culturel, l'école pour détruire la culture locale, une école qui est incapable de mettre en valeur les savoirs, les connaissances, la vision du monde, les systèmes de valeurs traditionnels, je pense que c'était tout à fait l'image de l'école coloniale, destructrice d'un patrimoine culturel et d'un patrimoine spirituel. Je crois que nous nous trouvions alors d'imaginer le monde dans une perspective de complémentarité. Il ne s'agit pas de construire d'une manière stupide des fausses oppositions entre modernité et tradition, entre oralité et écriture, entre intuition et rationalité. Je crois que nous sommes alors d'imaginer une perspective de partage des savoirs, une perspective de solidarité, une perspective de respect pour les autres. Et imaginez que plutôt c'est dans la possibilité d'être, de devenir, de transcender qui se trouve l'essence de la vie. Et ça, je le dois à ma famille. Je le dois à toute cette école qui a été développée par ma mère, de nous dire tout le temps que la famille, l'affection, le respect, c'était des valeurs le plus important à sauvegarder et que finalement, il ne fallait pas trop s'angoisser pour l'aspect matériel ou l'aspect économique. Tant qu'on a le respect entre nous, on a la joie de vivre, on a l'amour, l'affection, je crois qu'on a déjà conquéri le futur.
José Marine González, anthropologue péruvien, vous vivez en Suisse depuis de nombreuses années, grand connaisseur intime des Indiens, notamment des Awaruna, puisque votre maman faisait partie, enfin, était issue des Indiens. En même temps, les Awaruna, c'est aussi les Jivaro. Et quand on pense ici dans notre imaginaire, Jivaro, c'est les coupeurs de tête, c'est les barbares. Il vient d'où ce mythe du sauvage sanguinaire ?
Dénigrer était la règle pour excellence pour dominer. Si je pense justifier mes actes malhonnêtes, si je pense justifier toute l'injustice que je vais imposer à un peuple, à un groupe humain, j'ai tout à fait l'intérêt de leur dénigrer en première. Comme ça, je construis de toutes pièces la justification de mes actes. Et ça, c'était un peu fait à partir d'une mentalité colonial qui a duré et qui dure jusqu'à nos jours, parce que le Pérou, c'est un pays qui souffre énormément du racisme, souffre énormément du mépris pour les peuples indigènes, des mépris pour la culture locale, des mépris pour les langues. Et je pense que toute cette histoire a été imposé de l'extérieur, je crois que le moment est venu de construire un bilan et essayer qu'est-ce qu'on peut partager, qu'est-ce qu'on peut construire ensemble à partir d'un nouveau système de valeurs.
Mais vous, par exemple, quand vous êtes au Pérou, vous y retournez régulièrement, quand vous dites, enfin je ne sais pas, est-ce que vous dites d'ailleurs que vous êtes d'origine lointaine, mais quand même d'origine indienne, et comment cela est perçu ?
Nous avons tous des multiples origines. Nous avons tous été des acteurs d'un métissage profond. Et donc, évidemment, l'image de l'Indien, c'est une image négative.
Toujours.
Cette image a été véhiculée par l'école, par les médias, énormément. La publicité en témoigne de combien elle véhicule toute une colonisation de l'imaginaire où l'Indien est présenté comme quelqu'un de négatif. Et on le voit même au niveau de l'exclusion, au niveau des institutions. On avait toute une tradition au Pérou, par exemple, pour accéder à l'académie diplomatique du pays ou à l'école des officiers de la marine. Il y avait tout un examen de présence. Ça veut dire que ce n'était pas tellement important si vous avez des compétences, si vous avez l'intelligence, si vous avez la formation. Il fallait avoir la présence. Et cette présence devait être blanche. Parce que l'image du pays devait être une image positive. L'image positive, c'était l'image d'être blanc. Et à ce moment-là, on a construit toute une pyramide qu'on pourrait l'appeler, pour ironiser un peu, une sorte de pigmentocratie. C'était que la tonalité de la peau vous donnait quelque part une place dans la société et une possibilité de survie. On disait, je me rappelle très bien, en Haïti, être blanc, c'était déjà une profession.
On va se replonger à travers le son dans cet univers des Indiens d'Amazonie avec un disque que vous avez amené. C'était un disque publié par la Société Suisse des Américanistes. On écoute ce chant et vous allez essayer de nous faire entrer un tout petit peu dans, non pas dans ce qui est dit, mais dans ce qui est vécu au moment où ce chant se déroule. On écoute.
Fishing it at a leader. No shonga tiona rolling, no kawakawa in the egging. No shonga tiona rolling, no kawakawa in the egging. Mine ido no gatsi manga bakirong, no same to bangoni. No bonia wa yetang, o ya shi ya porengi shi ya ling. Vidorin vikanda yedon poren
Voilà une mélopée, on imagine un homme dans un univers naturel, végétal, on entend quelques sons d'animaux.
C'est un chant nomade Tsigenga. C'est un groupe ethnique qui appartient à la racine linguistique arawak, qui est une des racines les plus importantes du bassin amazonien sud-américain. Il y a deux grandes racines, les arawak, en tant que racine linguistique, et les Tupi Guarani, qui sont beaucoup plus au sud. Mais vous devez savoir que l'histoire de l'humanité, c'était l'histoire des migrations, à des époques différentes, à des situations différentes, déterminées par des conflits, déterminées par des situations difficiles. Et le bassin amazonien n'échappe pas à cette règle. Les gens ont beaucoup émigré, ils ont beaucoup voyagé pour des questions mythologiques, pour des questions écologiques, ou pour simplement préserver la fragilité de la forêt amazonienne et tout cet écosystème tropical humide. Les chants font référence à des invocations, on les appelle dans certains Icaro, Icariar, c'est chanter et dialoguer avec les esprits, les remercier, les demander la permission, ou se réconcilier ou demander pardon. C'est une manière de dialoguer avec les esprits qui sont présents en tant qu'êtres vivants partout. Et il y a cette possibilité de comment la musique, le son peut s'adapter à un contexte écologique très, très... très précis.
C'est très doux comme chant.
Très, très doux. C'est d'une tendresse extrême. D'ailleurs, quand il se passe les sessions thérapeutiques de la prise de l'ayahuasca, développée par les chamans, une partie de la thérapie sont les chants. Plus les chants sont intenses, sont profonds, sont une sorte de vibration qui aide la libération de l'esprit et aide à décontracter les gens.
Qu'est-ce que vous voyez, José Marine González, quand vous entendez un chant comme celui-là? C'est quoi les images qui viennent dans votre esprit?
Je ferme les yeux, je regarde la forêt dans toutes ses tonalités, ses différents types de vers, ses différents palmiers, ses différentes orchidées qui sont partout, qui habitent toute cette forêt immense. Cette espèce d'océan, des fleurs, des arbres, des palmiers, et l'eau. L'eau qui est l'élément de débit fondamental. L'eau qui est tellement important pour notre survie, pour notre futur comme espèce vivante. L'eau, la forêt, l'humidité et surtout le parfum de la terre.
Est-ce qu'il n'y a pas quand même le risque d'idéaliser à la fois ces sociétés traditionnelles, leur rapport à la nature? Parce que vous me le disiez tout à l'heure, vous avez mangé du singe, donc c'est pas non plus complètement le paradis.
Non,
Albertine le dit aussi d'ailleurs, oui, en disant
la société forêt est très soumise à toutes les contradictions de toute société humaine. La forêt, c'est aussi le scénario de pas mal de conflits, de pas mal de contradictions. Aucune culture est définitivement fixée. Elle est soumise, elle est influencée, elle est contrariée. Donc, nous vivons dans un processus dynamique assez profond. Et donc, il n'y a pas des territoires isolés ou des paradis perdus. La mondialisation, la globalisation n'a pas commencé hier. La globalisation a commencé depuis des siècles. Et on est tous confrontés à des multiples influences, à des multiples pressions, à des multiples sexations. Et on doit faire avec, on doit s'adapter et on doit se réadapter éternellement.
Un des effets de ce processus, c'est la création aujourd'hui, ou en tout cas depuis quelques temps, notamment d'écoles et notamment d'une université. C'est un projet qui vous tient beaucoup à cœur, qui est Prédikitos, où ce savoir-faire traditionnel, ces chants, cette mythologie, cette langue, qui ont toujours été menacées, qui a été transmise de manière orale, est en train d'être enseignée. Bon, on imagine bien l'importance d'une école comme celle-là à un niveau local, à un niveau du Pérou. Qu'est-ce que ça peut signifier comme pour l'avenir des Indiens de cette région ?
Effectivement, depuis 1988, à l'initiative de l'Association interethnique du développement de l'Amazonie péruvienne, AIDCEP, et des fédérations indigènes, on a développé toute une recherche pour se poser la question de quelle éducation ont besoin les peuples indigènes pour mettre en valeur leur culture, pour mettre en valeur leur dignité, pour reconstruire leur estime, pour mettre en valeur leur langue maternelle. Et cette inquiétude, cette recherche pour construire un futur différent est devenue une grande réalité avec la constitution du programme de formation des enseignants indigènes en langue et culture. C'est le programme d'éducation bilingue et interculturelle situé à Sungarokocha, à 16 km de la ville d'Iquitos, qui est la ville la plus importante de l'Amazonie péruvienne. Cette institution a la capacité extraordinaire, depuis un bon moment, de mettre en valeur les savoirs, les visions du monde, les traditions, les connaissances extraordinaires des écosystèmes, des médecines et des psychiatries traditionnelles des peuples indigènes de la forêt. Et c'est peut-être une possibilité et une suggestion pour l'ensemble de la société multiculturelle péruvienne et pour aussi améliorer la situation des rapports entre les peuples indigènes de l'Amérique, du Canada au Chili, avec les États-nations que jusqu'à maintenant, on n'en fait que des fois s'imposer, détruire la forêt, détruire les cultures, humilier les populations indigènes, comme on le fait l'actuel gouvernement du Pérou, qui a même imaginé de privatiser la forêt amazonienne et tomber dans la méconnaissance totale de la diversité culturelle et linguistique comme un apport et un atout. Pour imaginer le Pérou du futur.
Dans la minute qui nous reste, au fond, une université comme celle-là, on imagine bien en termes de sauvegarde de la culture, elle est fondamentale. Dans l'idée d'un rayonnement de cette culture dans le Pérou, dans l'Amérique latine et dans le monde, à quoi est-ce qu'elle peut servir ?
C'est-à-dire la proposition d'une éducation appropriée dans la possibilité de reconstruire un système de valeurs capable de nous donner décider pour imaginer un projet des sociétés viables ne se réduit pas à une réalité locale. Je crois que la société humaine aujourd'hui elle est confrontée à la reconstruction d'un nouveau système de valeurs qui nous permet de nous donner les références pour imaginer une société humaine viable, capable de se construire à partir de l'éthique, capable de répondre aux défis de la dignité humaine et capable de respecter la nature de laquelle nous faisons partie. Et en tant qu'espèce vivante, si nous voulions imaginer notre futur, nous devions de préserver la seule et unique maison que nous avons pour imaginer le futur de notre humanité.
Et pour cela, et dans ce processus-là, les Indiens Awaruna, comme les autres, sont un élément important de cette réflexion, de cet édifice, de la construction de cet édifice. Je vous remercie beaucoup, José Marine González, d'avoir passé cette heure
avec nous. Je vous remercie aussi de l'occasion de pouvoir approcher un sujet au-delà de la folklorisation des autres, et plutôt de les prendre comme des sujets historiques capables et avec qui nous pouvons dialoguer.
Eh bien, on espère que c'est ça que ça provoque, en tout cas chez nos auditeurs. Merci beaucoup, je vous souhaite un excellent après-midi. Merci aujourd'hui à Samuel Morier-Genoux en régie, Stéphanie Coudray, notre assistante, Dany Sulam pour notre site internet et Monsieur T qui a réalisé les carnets de route. Stéphane Hertog, Cyril Desprats, il va être 9h du matin à Yurimawas, 15h sur la première.